Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Qari'a. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le dimanche 6 Farvardin, 1402 du calendrier iranien, 26 mars 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. L'Iran condamne les raids aériens des États-Unis contre des réseaux en Syrie. L'Iran promet une réponse rapide à toute attaque contre des bases mises en place à la demande de la Syrie. Les États-Unis cherchent à occuper le Yémen et à piller ses richesses pétrolières, a annoncé le mouvement Ansar Allah. Et la Russie va déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, annonce le président Vladimir Poutine. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Réagissant aux récentes évolutions en Syrie, un haut responsable de la sécurité nationale iranienne a averti que la République islamique d'Iran réagirait rapidement à tout prétexte d'attaque contre des bases en Syrie créées à la demande du gouvernement de Damas dans le but de lutter contre le terrorisme. Keivan Khosravi, porte-parole du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, a lancé cet avertissement samedi 25 mars, après que des responsables américains ont accusé l'Iran d'être impliqué dans des attaques contre des bases américaines illégales sur le sol syrien. Selon la chaîne d'information iranienne en langue arabe Al-Alam, près de 20 roquettes auraient été tirées samedi contre deux bases illégales appartenant aux forces d'occupation américaines déployées dans l'est de la Syrie. Les attaques sont intervenues en réponse à une frappe menée par les forces américaines contre une installation dans le nord-est de la Syrie à la suite d'une attaque de drone jeudi qui a tué un entrepreneur américain et blessé 6 autres ressortissants des États-Unis. Le leader du mouvement yéménite Ansar Allah affirme que les États-Unis cherchent à occuper le Yémen et à piller ses richesses pétrolières. Abdelmalek al-Houssi a déclaré que les États-Unis voulaient envahir, contrôler et prendre l'indépendance et la liberté de la nation yéménite. Il a averti que Washington prévoyait d'implanter une base militaire dans le pays qui a un poids stratégique. Le leader d'Ansar Allah a également souligné que la plupart des armes utilisées lors de l'invasion menée par l'Arabie saoudite pour tuer les Yéménites, sont fabriqués aux États-Unis. Le leader de la résistance yéménite a ajouté qu'Israël et la Grande-Bretagne provoquaient, planifiaient et guidaient l'Arabie saoudite dans son agression. Al-Houssi a fait ses remarques à l'occasion du 8e anniversaire de l'invasion saoudienne contre le Yémen. La guerre soutenue par l'Occident a jusqu'à présent tué des centaines de milliers de Yéménites et a conduit à ce que les Nations Unies appellent la pire crise humanitaire au monde. La Russie prévoit le déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Vladimir Poutine a rappelé que Washington faisait de même avec ses alliés. La Russie va déployer des armes nucléaires tactiques sur le territoire de la Biélorussie, a fait savoir le président russe Vladimir Poutine le 25 mars. La raison en est la déclaration du vice-ministre britannique de la Défense, indiquant que son pays allait fournir des obus à l'uranium appauvri à l'Ukraine, a fait valoir le président Vladimir Poutine. Le président russe a ajouté que même en dehors du contexte de ces événements, tandis que son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko, soulevait depuis longtemps la question du déploiement d'armes nucléaires tactiques russes sur le territoire de la Biélorussie. En outre, Vladimir Poutine a tenu à souligner que ce déploiement n'avait rien d'interdit au niveau international. Il n'y a rien de nouveau ici non plus. Tout d'abord, les États-Unis le font depuis des décennies. Ils ont déployé, il y a longtemps, des armes nucléaires tactiques sur le territoire de leurs alliés, les pays de l'OTAN en Europe, dans 6 pays. Partant, Moscou et Minsk ont convenu de faire de même, selon les termes de Vladimir Poutine, sans violer leurs obligations internationales en matière de non-prolifération. À partir du 3 avril, nous commençons à former les équipages et le 1er juillet, nous terminerons la construction d'un entrepôt spécial pour les armes nucléaires tactiques sur le territoire de la Biélorussie, a précisé le président russe. Le 20 mars, l'armée britannique a confirmé la livraison à Kiev des obus contenant de l'uranium appauvri. Et enfin, la Russie a accusé la République d'Azerbaïdjan d'avoir violé le cessez-le-feu négocié par Moscou, qui a mis fin à la guerre en 2020 entre la République d'Azerbaïdjan et l'Arménie, en laissant ses troupes franchir la ligne de démarcation. Le ministère russe de la Défense a déclaré qu'une unité des forces armées azerbaïdjanaises avait franchi une ligne de contact dans le district de Choucha en violation de la trêve. Auparavant, le ministère azerbaïdjanais de la Défense avait déclaré avoir pris le contrôle de certaines routes auxiliaires du Karabakh. Il a déclaré que les mesures ont été mises en œuvre pour empêcher l'utilisation des routes de terre pour l'approvisionnement en armes en provenance d'Arménie. Bakou et Erevan sont enfermés depuis des décennies dans un conflit territorial sur la région à majorité arménienne d'Azerbaïdjan du Haut-Karabakh. Dans le cadre d'un cessez-le-feu en 2020, l'Arménie a cédé les territoires longtemps disputés à la République d'Azerbaïdjan. La Russie a maintenu des forces de maintien de la paix dans la région depuis lors. Les soldats de maintien de la paix russes sur place prennent des mesures visant à empêcher une escalade de la situation de crise et à éviter les provocations mutuelles des parties opposées. La partie azerbaïdjanaise a été informée de la nécessité de respecter les dispositions de l'accord, de prendre des mesures pour arrêter les travaux d'ingénierie et de retirer les forces armées sur les positions qu'elle occupait auparavant, a encore ajouté le ministère russe. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a vivement condamné le samedi 25 mars l'attaque agressive et terroriste de l'armée américaine contre des cibles civiles dans la ville syrienne de Deir ez-Zour, qui a fait plusieurs morts et blessés parmi la population civile. Le responsable iranien a balayé d'un revers de main les allégations de Washington concernant la lutte contre le groupe terroriste Daesh en Syrie. Les allégations américaines de maintien d'une présence en Syrie pour lutter contre Daesh, pour qui les États-Unis ont joué un rôle majeur dans la création, ne sont qu'une excuse pour l'occupation et le pillage des richesses nationales de la Syrie, y compris ses ressources énergétiques, ainsi que sa production céréale, a-t-il dénoncé. Les États-Unis et leurs alliés ont envahi la Syrie en 2014 sous prétexte de combattre Daesh. Ce groupe terroriste a été créé alors que Washington était à court d'excuses pour étendre son ingérence au Moyen-Orient. Washington, qui a mis en place des avant-postes illégaux à proximité des principaux gisements pétrogaziers dans la province de Deir ez-Zour, a commencé à piller le pétrole brut syrien et d'autres ressources d'énergie, de subsistance et de revenus. Les forces américaines poursuivent toujours leur présence illégale en Syrie, bien que l'armée syrienne et ses alliés aient vaincu Daesh en 2017. La poursuite de la présence militaire des États-Unis et de l'occupation de certains secteurs de la Syrie, ainsi que les attaques contre différentes cibles dans ce pays, constituent des violations du droit international et de la souveraineté ainsi que de l'intégrité territoriale de ce pays, a réaffirmé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani. En réaction à l'attaque du vendredi 24 mars des forces américaines contre Deir ez-Zour, les combattants de la résistance syrienne ont tiré des roquettes, des missiles et des drones kamikazes sur deux avant-postes américains illégaux. Suite à l'attaque de représailles, des responsables américains, dont le département d'État, ont accusé le centre de conseil iranien en Syrie d'y être impliqué, sans pour autant fournir la moindre preuve. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a rejeté catégoriquement les accusations américaines, les qualifiant de non fondées, affirmant que les responsables américains lançaient toujours des accusations creuses contre l'Iran. La Maison-Blanche doit savoir que cette méthode est désormais obsolète, a-t-il précisé. Il a également souligné le rôle important joué par le général Qassem Soleimani et les conseillers antiterroristes iraniens dans la lutte contre le terrorisme aux côtés de l'armée et de la nation syrienne. Les conseillers militaires de la République islamique d'Iran opèrent en Syrie à la demande même du gouvernement syrien pour aider ce pays à lutter contre le terrorisme, a-t-il déclaré, ajoutant que ses conseillers resteront en Syrie pour aider son gouvernement à rétablir la paix, la stabilité et la sécurité à travers le pays. L'Iran promet une réponse immédiate aux attaques contre les bases syriennes. Vendredi, un responsable de la sécurité iranienne a averti que la République islamique d'Iran riposte très rapidement à tout prétexte d'attaque contre des bases en Syrie déployées à la demande du gouvernement syrien dans le but de lutter contre le terrorisme. Tout prétexte pour attaquer des bases créées à la demande du gouvernement syrien pour lutter contre le terrorisme et les daéchistes dans ce pays se heurtera à une contre-réponse immédiate, a martelé Keivan Khosravi, porte-parole du principal organe de sécurité iranien. Il a souligné que la partie américaine, en utilisant de fausses accusations, a recours au jeu du blâme pour échapper aux conséquences possibles de son occupation illégale d'une partie du territoire syrien par ses forces militaires. Washington ne peut pas attribuer les confrontations dans des pays occupés avec les forces américaines à d'autres pays en répandant des mensonges, a-t-il réitéré.
Bienvenue. Le sujet du jour, du débat d'aujourd'hui donc, se trouve être la Syrie, la situation syrienne au niveau international, au niveau de ses voisins arabes, s'est améliorée plus que ça même, puisqu'il a eu droit à une visite en Arabie Saoudite qui s'est faite en grande pompe. Tout de suite donc, nous allons faire venir nos invités, tous les deux d'un point de vue virtuel. Alors, première invitée étant Madame Aïssar Midani, l'une de nos experts. Bonjour Madame Midani.
Bonjour à toute l'équipe, bonjour à votre invité, Monsieur Luc Michel.
On rappelle que Mme Midani est franco-syrienne et c'est notre analyste, notamment sur les questions syriennes. Alors, vous l'avez compris, notre deuxième invité, Monsieur Luc Michel. Bonjour, Monsieur Luc Michel, ravi de vous avoir avec nous.
Moi aussi, bonjour à votre équipe et bien entendu à Mme Midani. Et joyeux Nowruz à tous les Iraniens.
C'est gentil merci. À vous, merci beaucoup. Alors, Madame Midani, j'ai envie de commencer par vous parce qu'il y a quelques semaines, dans les mêmes studios, on avait parlé de la Syrie et vous vous disiez donc très optimiste, je reprends vos propos, concernant le futur syrien. On savait également que par le fait que Damas souhaitait stabiliser son pays, ils allaient devoir avoir une ouverture au niveau international. Vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu la réunion de la Ligue arabe, eh bien, on y était question, mais il fallait que ce soit le monde arabe qui fasse le premier pas. Comment vous avez envie de commenter l'actualité syrienne de ces dernières semaines?
En effet, je crois que ce qui est assez remarquable, c'est que l'ensemble des pays arabes reviennent vers la Syrie peu à peu, en fait, je dirais. Bien sûr, Oman, Mascat, ils n'ont jamais coupé les relations. Les Émirats arabes unis ont coupé les relations en 2012, comme vous le disiez dans votre rapport, mais sous pression américaine. Et par contre, manifestement, il y avait beaucoup de relations sous la table aussi, ce qui explique le fait que maintenant, ce sont les premiers pays qui font des démarches aussi pour le retour de la Syrie à la Ligue arabe et pour la reprise des relations avec la Syrie, puisque tout le monde se rend compte peut-être qu'ils étaient sur le mauvais chemin et ils avaient tort dans la mesure où toutes les allégations qui étaient avancées par les États-Unis pour cette guerre contre la Syrie sont des allégations fausses, hein, comme ça a été toujours le cas, comme on le sait. Le monde occidental est un monde de mensonges médiatiques assez systématiques. Donc, ces allégations pour la Syrie ont été fausses. Je rappelle aussi que là, on est dans le, 20e anniversaire de l'invasion de l'Irak aussi sur des allégations fausses sur la base de soi-disant la construction d'armes de destruction massive en Irak et que velléité d'envahir ses voisins, etc. Donc, n'empêche que ça a donné 1,5 million de morts et le pays a été complètement transformé de fond en comble, a été complètement détruit. Bon, bien sûr, les Irakiens reprennent maintenant leur... ils ont déjà pansé leurs blessures et ils essayent de reprendre leur indépendance. La Syrie a bien résisté, donc a résisté à cette agression américaine en bonne et due forme, occidentale, moi je dirais, pas seulement américaine, c'est les États-Unis avec l'OTAN par des proxys interposés, par des terroristes qu'ils ont loués et des mercenaires en fait qu'ils ont loués à cet effet. L'échec de cette guerre terroriste en Syrie contre la Syrie a fait effectivement qu'il y a un nouveau monde qui apparaît. Et que le nouveau monde que nous voyons aujourd'hui poindre du nez et qui se forme réellement, la Syrie a été vraiment son initiateur, je peux dire, parce qu'elle a résisté pratiquement toute seule jusqu'en 2015 à l'agression américaine et OTAN. Et puis, à partir de 2015, le fait qu'elle ait demandé à la Russie de l'aide pour intervenir, et là, ça a été effectivement qualitativement important pour la libération de l'ensemble du territoire syrien, mais aussi ça a été important pour le changement du monde.
Merci, Mme Idani. Je me permets de vous interrompre parce qu'il y a une question qui se pose pour avoir discuté avec d'autres Syriens. Certains disaient que peut-être que M. Assad, le président Assad, ne serait pas élu aux prochaines élections parce que les Syriens seraient fatigués du conflit, chercheraient donc un président plus diplomatique. Est-ce qu'on peut dire que le président Assad répond donc à la demande de ses citoyens en tout simplement permettant la diplomatie, restant ouvert à la diplomatie? Et est-ce que c'est pas finalement, il répondra finalement à la demande de son peuple d'essayer donc à ce que les frontières soient beaucoup plus amicales qu'avant?
Nous n'avons agressé personne. Donc, les non-frontières, elles ne sont pas amicales par l'agression des autres. Le président Assad n'a agressé personne. Et il n'a éliminé personne. Ce sont eux qui nous ont agressés. La Turquie nous a agressés et jusqu'à maintenant, elle occupe une partie de notre territoire et elle anime aussi toutes les hordes terroristes qui sont à Idlib. Les États-Unis nous ont agressés et pillent nos richesses de pétrole et de céréales et de blé et de produits agricoles comme le coton, important comme le coton, comme les oliviers, comme tous les produits agricoles que fait la Syrie et surtout dans cette région de Hasaké, nord-est de la Syrie, elles sont pillées par les Turcs, par les Américains. Toujours par proxy interposé, mais les Américains, quand ils pillent le pétrole, ils le pillent eux-mêmes tout seuls. Et
merci,
tous
Madame
les jours,
Denis.
Il y a des centaines de citernes qui partent vers leur base, qui est à Shedadi, qui est dans le nord-ouest de l'Irak.
Merci, Mme Denis, pour ce rappel. Alors, Monsieur Luc Michel, on voit une véritable concordance de calendrier ces deux dernières semaines, parce que si les choses ont bougé après que l'Iran ait fait cette signature diplomatique en Chine, tout s'est mis en place, mais pour l'Iran, ce n'est pas une date, faite par hasard, puisque c'est passé juste avant les fêtes de Nowruz, une date extrêmement importante pour le calendrier donc, iranien. Vous-même, quand vous voyez cette concordance de calendrier, est-ce que beaucoup de choses se sont passées? Il n'y a pas forcément seulement la rencontre de Assad aux Émirats arabes unis. Comme j'ai expliqué avec l'Iran, la diplomatie vers les pays arabes a augmenté. Il y a également cette rencontre à Moscou avec Xi Jinping, mais également les panafricanisme, le forum panafricaniste à Moscou. Beaucoup de choses sont révélées dans ces deux dernières semaines. Vous-même, quand vous voyez cette concordance, vous y voyez une concordance? Est-ce le fruit d'un hasard ou c'est bien ces trois pays, l'Iran, donc la Russie et la Chine, qui ont mis en place un calendrier afin de se préparer au printemps qui s'annonce extrêmement difficile, notamment en Ukraine?
Non, il y a une dynamique mondiale qui a été lancée par Poutine et qui est soutenu par l'Iran et la Chine, et qui vise à dynamiter l'ancien ordre mondial américain. C'est une dynamique vers un monde multipolaire, et la Syrie surfe sur cette dynamique multipolaire. Ce que nous assistons vis-à-vis de la Syrie, c'est l'échec du printemps arabe, sans même parler de l'Irak dont on fête l'anniversaire, le triste anniversaire aujourd'hui. Ce printemps arabe qui a détruit le Yémen, la Libye et la Syrie, qui a fait des millions de morts, c'est un échec complet. Le but du printemps arabe était deux décennies occidentales avant, c'était d'isoler la Syrie. Il y avait déjà eu ce qu'on a appelé improprement la révolution des cèdres, qui est une révolution de couleur occidentale au Liban visant à chasser la Libye. Tout cela, c'est un échec. Damas s'est désenclavée elle-même. Elle est reconnue par ses pères arabes et ce n'est que justice.
Merci, Monsieur Luc Michel. Madame Midani, malheureusement, aujourd'hui, il y a eu une attaque de l'aéroport de la capitale syrienne, Damas. Selon Sana, il n'y a eu que des dégâts matériels. L'un des plus gros ennemis, finalement, de la Syrie reste l'entité sioniste, comme l'est pour l'Iran, comme l'est pour le Liban. C'est finalement un ennemi qui concorde et qui provoque beaucoup de déstabilisation dans le pays. Et qu'est-ce que disent les dernières informations concernant cette attaque qui s'est passée donc aujourd'hui ou hier soir à Damas?
Bah écoutez, les Israéliens, ils n'arrêtent pas d'attaquer la Syrie. C'est toutes les deux semaines ou toutes les semaines pratiquement. Et ils attaquent les aéroports. Alors je tiens à dire quand même, c'est non seulement la Syrie ne les a pas agressés, mais en plus l'aéroport de Damas est un aéroport civil et c'est l'aéroport qui reçoit aussi les aides après le séisme. Donc c'est un double crime. Et l'entité sioniste s'enfonce dans ses crimes et s'enfonce dans ses agressions et dans ses violations systématiques du droit international et vraiment des droits humains, tout simplement. Donc c'est l'allié privilégié des États-Unis, c'est leur instrument dans la région. Je ne dis pas les États-Unis seulement, mais c'est tous les pays de l'OTAN. Et c'est quelque chose d'assez fou, cette criminalité qui est impunie et soutenue par l'Occident, qui prétend systématiquement qu'il défend les droits de l'homme. D'ailleurs, je voudrais là-dessus dire que c'est vraiment... Maintenant, les masques sont tombés aux yeux de tout le monde. Sur la nature de l'Occident, la nature de ces pays qui prétendent parler de liberté et de défense des droits de l'homme, qui ne sont que des agresseurs permanents et des gangsters qui commettent des crimes contre l'humanité, contre les gens, contre les civils, contre les peuples. Et d'ailleurs, il suffit de voir comment cette entité sioniste traite les Palestiniens. C'est une manière absolument non seulement fasciste, mais je crois que démesurée dans le fascisme. Et il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Et ce soutien abject des pays occidentaux à cette entité fait d'eux aussi des criminels et des complices du crime systématique.
Merci,
alors,
Madame Midani.
Aussi.
Alors, Monsieur Luc Michel, les Algériens, cette semaine, ont indiqué que les différents accords qui se sont passés au Moyen-Orient vont permettre à ce que la cause palestinienne soit mieux protégée, qu'il y ait une plus grande unité dans le monde arabe. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos tenus par le président algérien, Monsieur Tebboune? Est-ce que ça va permettre à ce que, il y ait une plus grande unification sur la manière de dialoguer avec l'entité sioniste concernant les territoires palestiniens occupés et les crimes israéliens?
Bien
crimes
entendu,
israéliens.
On assiste depuis un an, parallèlement au désenclavement de la Syrie, à la relance de la lutte palestinienne grâce principalement à l'Iran et à l'Algérie. Il faut constater cela. Les Algériens, la cause palestinienne qui est un peu mise de côté depuis une décennie aujourd'hui, c'est une cause à niveau populaire et qui bénéficient du soutien de la rue arabe, comme l'a montré la récente, les incidents de la Coupe du Monde de football. Donc la Palestine, la cause de la Palestine n'est plus isolée, d'autant plus que c'est le gouvernement israélien qui est isolé. C'est un gouvernement néo-fasciste qui est fait avec les éléments les plus radicaux du sionisme et le Likoud de Netanyahou. Cet isolement qui est même réel aux États-Unis du Likoud, évidemment, correspond au désenclavement des Palestiniens.
Merci, M. Luc Michel. Madame Dany, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos tenus par M. Luc Michel, rappelant donc aux auditeurs que le Golan syrien est occupé également et subit également une occupation de l'entité sioniste, comme l'est la Palestine, et que pour la Syrie, la question palestinienne n'a jamais été oubliée. Vous-même, vous êtes d'accord? Est-ce que grâce à cette unification qui est en train de se passer, cette énergie, cette synergie, la cause palestinienne pourrait donc plus protégée?
En fait, la cause palestinienne, elle est toujours restée au cœur de tous les peuples arabes et de tous les pays arabes. C'est une profonde injustice, en fait, qui a été même, qui a même été approuvée par les Nations Unies, malheureusement, en 1948. Et je suis d'accord avec les propos de M. Luc Michel complètement. C'est un pays fasciste, l'entité israélienne est fasciste et elle réunit les éléments les plus extrémistes dans leur fascisme, aussi le Likoud et les autres. Maintenant, je peux dire que, en fait, la résistance de la Syrie et le fait de dire, de montre que quand on peut gagner, on peut être victorieux, et donc a permis effectivement de donner beaucoup de courage au peuple palestinien qui effectivement a relancé sa lutte et qui s'organise de manière systématique et dans tout le territoire palestinien. En jetant derrière lui les accords d'Oslo, les accords, tous ces accords qui visaient à diviser le pays et à donner ce qui ne de manière illégale à Israël, à l'entité sioniste, une grande partie du territoire palestinien.
Merci, Mme.
Je pense que de toute façon, les Palestiniens vaincront de toute manière.
Alors, je rebondis sur ce que vous dites pour vous poser une autre question sur, en ces derniers temps, les rapports iraniens en matière de diplomatie indiquent que les premiers mouvements vers la diplomatie, vers les pays arabes, vers l'Iran, vont permettre peut-être d'ouvrir des solutions, de permettre des solutions pour différents autres pays arabes qui seraient intéressés d'avoir de nouveau une diplomatie active avec l'Iran. On a parlé de l'Égypte, on a parlé de Bahreïn, on a parlé de la Jordanie. Est-ce que pour la Syrie, ça va être pareil? Les Émirats arabes unis ne vont pas être les premiers et derniers. Est-ce qu'il y a d'autres pays arabes? Est-ce que vous entendez des échos dans l'actualité syrienne sur d'autres pays arabes enclins à faire un pas vers la Syrie du président Assad?
Ah, bien sûr, elle est à moi la question, c'est ça?
Oui, elle est pour vous, Madame Midani. Ce serait vous qui concluez le débat d'aujourd'hui.
L'Égypte, oui. L'Égypte, par exemple, a repris ses relations avec la Syrie. Il y a eu une visite non seulement de l'ensemble des parties d'un consortium des partis politiques qui est venu en Syrie, qui ont rencontré Assad aussi. Et il y a eu le ministre des Affaires étrangères égyptien qui est venu en Syrie. Et ces choses, en fait, se préparent. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, peut-être, se préparent du côté de l'Arabie saoudite aussi, parce que après cet accord avec sous l'égide de la Chine entre l'Iran et l'Arabie saoudite, ça permet aussi de poser la question autrement. En fait, tous les pays arabes maintenant se posent la question, non pas par rapport à la Syrie, mais aussi par rapport à une nouvelle politique, à un nouveau positionnement dans ce nouvel ordre mondial. Ils sont tous conscients qu'ils ont un rôle à jouer, beaucoup plus important alors qu'ils étaient marginalisés et pillés par le monde occidental au moment du règne, je dirais, monopolistique américain. Donc là, il y a une prise de conscience sur un rôle qu'on peut avoir en fait avec les pays de l'Asie, de la Russie et puis avec l'Iran dans toute la région, qui va dans le sens d'une prospérité économique et politique de la région, des peuples de la région et donc d'une opposition, je dirais, aussi à l'hégémonisme américain et surtout à l'hégémonisme de toutes sortes. Parce que là, on tend vers des rapports égalitaires où on traite d'égal à égal avec tous les pays et en termes de gagnant-gagnant au niveau des rapports économiques, au niveau des rapports sociaux et des échanges. Donc, tout ceci, ce sont des fondements plus sains, je dirais, et qui prépare ce nouveau monde et auquel, effectivement, les pays se rangent.
Merci,
la Syrie est aussi la pierre angulaire dans la région de l'axe de la résistance, je pourrais le dire. Et donc, ça aussi, quand on veut la libération de la Palestine, c'est important de traiter avec la Syrie.
Merci, Madame Midani. Merci. Monsieur Luc Michel, est-ce que vous êtes d'accord avec la conclusion de Madame Midani, surtout en concernant l'égalité des pouvoirs entre États et le respect de la souveraineté?
Oui, tout à fait. Et une des clés du nouveau monde, c'est le basculement du Proche-Orient. L'Arabie saoudite est passée du côté du bloc de l'Est et les États producteurs de gaz, le Qatar et les Émiratis, ont basculé également du côté du bloc de l'Est. C'est le Proche-Orient qui est en train d'échapper des mains américaines et des mains sionistes, et c'est cela qui est capital.
Merci.
La réception de l'Assad en Arabie saoudite, évidemment, c'est l'événement le plus significatif.
Merci, Monsieur Luc Michel. Je remercie donc à nos experts, Madame Midani, je le rappelle, analyste franco-syrienne, Monsieur Luc Michel également, notre analyste, notamment pour le continent africain. Je vous remercie à tous les deux donc d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce débat et je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Au revoir.
Économie. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de l'Afrique Économie de ce 25 mars 2023. Une émission durant laquelle nous allons passer en revue les informations et les actualités les plus importantes dans le domaine économique qui se sont passées durant la semaine dernière sur le continent africain. Restez avec nous. Pour financer leur croissance, les juniors minières ont recours à des levées de fonds en bourse. Privées de ce moyen de financement, les juniors africaines doivent parfois s'associer à leur homologue étrangère, limitant l'émergence de champions nationaux de l'exploitation minière sur le continent. Au Ghana, le Mineral Income Investment Fund a conclu un protocole d'accord avec le Ghana Stock Exchange pour y inscrire davantage de compagnies minières locales. C'est l'annonce faite le 23 mars par le fonds minier qui précise que l'objectif de ce projet est d'offrir à ces entreprises un accès plus facile aux capitaux à travers les différents marchés du GSE. Au début, le fonds minier compte recommander au GSE toutes les sociétés minières dans lesquelles il détient des participations en vue de leur cotation, mais l'inscription d'autres sociétés qui ne comptent pas le MIIF comme actionnaire n'est pas exclue. Cela permettra à terme de créer des champions ghanéens de l'exploitation minière, conformément aux souhaits du président Nana Akufo-Addo. Les marchés de capitaux sont restés le moteur de l'accès accéléré aux capitaux à long terme pour les sociétés minières du monde entier et il est important que les sociétés minières ghanéennes bénéficient de ce levier, expliquait Edouard Nanaya au Courantec, PDG du MIIF. Il faut souligner que le fonds n'en est pas à sa première action en faveur des acteurs locaux de l'exploitation minière au Ghana. Plus tôt cette année, le MIIF a annoncé la mise en place d'un financement de 60 millions de dollars destiné à transformer les petites exploitations minières 100% ghanéennes en sociétés de taille moyenne ou grande. Après environ deux décennies en régime d'entretien et de maintenance, la mine Kipushi devrait recommencer à livrer du concentré de zinc en 2024. Les travaux de construction des nouvelles infrastructures ont été lancés en août 2022 par le Canadien Yvonne Humins et l'entreprise congolaise Yesamine. Le Suédois Epiroc, spécialiste mondial d'équipement minier, a annoncé le 23 mars la signature d'un contrat au profit de la mine de zinc, de cuivre, de germanium et d'argent de Kipushi en RDC. Il s'agit de plusieurs chargeuses, camions miniers et foreuses d'une valeur de 17 millions de dollars commandés par l'entrepreneur minier JCHX Mining & Construction. Les différents équipements sont dotés d'un système de surveillance intelligent des performances et de la productivité, ainsi qu'un outil de permet de les commander à distance. L'automatisation joue un rôle grandissant dans l'industrie minière, apportant aussi bien un gain d'efficacité qu'une sécurité renforcée. Pour Elena Edblom, PDG d'Epiroc, l'objectif est donc de rendre les opérations à la mine de Kipushi aussi sûres et productives que possible. Pour rappel, le projet Kipushi est en régime de maintenance et entretien depuis le début des années 90. Les travaux de construction destinés à remettre la mine en service sont en cours depuis août 2022 pour une entrée en production au deuxième trimestre 2024. Le projet est détenu par Kipushi Corporation, une co-entreprise dans laquelle la Yesamine est actionnaire à 38% contre 62% pour le Canadien Yvonne Humins. Le Nigeria a lancé la mise en place d'infrastructures multimodales de transport pour mieux tirer profit de sa proximité avec le Niger enclavé et booster les activités commerciales. Au cours de sa réunion du 21 mars, le Conseil exécutif fédéral du Nigeria a approuvé un financement de 984 720 UST pour l'acquisition de matériel roulant, d'équipements d'exploitation et d'entretien pour la ligne ferroviaire à écartement standard Kano-Maradi actuellement en construction. Selon le ministre des Transports Moazu Sambo, ce contrat d'achat a été attribué à MSSR Mota Engineering Nigeria Limited filiale du groupe portugais de BTP Motengi, légalement en charge des travaux de construction subventionnés. D'après le tracé annoncé, la ligne principale de 284 km traversera jusqu'au Maradi, au Niger, un axe secondaire de 94 km reliera d'Utsé à Kano. 12 stations sont aussi prévues pour raccorder les différents axes de ce chemin de fer. Ces sections font partie d'un réseau de 2784 km que le Nigeria développe depuis 2006 pour mailler son territoire avec un embranchement direct sur le Niger pour éviter de transiter par le Bénin. Les segments Abuja-Kaduna et Lagos-Ibadan sont respectivement entrés en service en juillet 2016 et juin 2021. La mise en service de l'intégralité du réseau ferré offrira au Niger une nouvelle alternative pour ses approvisionnements et exportations qui transitent actuellement en grande partie par le Bénin via les ports de Cotonou et de Lomé. Devant les défis de mobilité urbaine en Afrique, la promotion du transport de masse est devenue l'option prioritaire de plusieurs gouvernements et administrations municipales. Le gouvernement du Rwanda a annoncé l'acquisition de 300 bus qui seront introduits dans le transport commun au cours des 3 prochains mois. Nous sommes sur le point d'acheter 300 nouveaux autobus. Nous avons actuellement un problème d'insuffisance de bus, parce que leur nombre a diminué au fil du temps, a déclaré Patrice Ouassé, ministre d'État chargé des infrastructures. La flotte de Kigali Bus Service 16, l'opérateur public de transport en commun, est actuellement vieillissante et la faible envergure de son parc affecte ses offres et ses performances. De 2012 à 2014, le parc de l'opérateur a été augmenté, mais aucun suivi approprié n'a été effectué. En conséquence, le nombre de bus a baissé, ce qui signifie de longues files d'attente pendant les heures de pointe, a-t-elle poursuivi. L'absence d'autres modes de transport en commun, comme celui ferroviaire, a fait du transport par bus l'option de mobilité la plus utilisée et la moins onéreuse dans Kigali, ce qui accentue la congestion des routes et rallonge la durée des trajets à travers la capitale. Au Kenya, la sécurité alimentaire et nutritionnelle reste tributaire des performances de l'agriculture pluviale. Face aux défis du changement climatique, un renforcement des investissements publics dans le secteur agricole s'impose. Au Kenya, l'exécutif a signé le 22 mars un protocole d'accord avec le groupe d'investissement britannique United Green pour la mise en œuvre au cours des 5 prochaines années d'un programme visant à augmenter le niveau de la production agricole. Selon les informations relayées par le quotidien local des Stars, cette initiative, dont le coût est évalué à 33 milliards de shillings, sera également déployée dans le bassin du lac Victoria, principalement dans le comté de Kisumu, avec l'appui de l'entreprise locale Victoria Green Invest. Elle cible notamment les chaînes de valeur des céréales, des oléagineux, du coton et de l'industrie des aliments pour animaux. Les interventions seront axées, entre autres, sur l'amélioration et l'accès des communautés rurales aux services agrofinanciers et la promotion des pratiques agricoles intelligentes et résilientes au changement climatique. Les actions qui seront menées dans le cadre du projet comprennent aussi le renforcement et la modernisation des systèmes et des infrastructures de transformation des produits agricoles et la création de nouveaux débouchés pour les petites exploitations agricoles. Plus largement, ce nouvel appui financier devrait permettre, selon les autorités, d'accompagner les efforts entrepris par l'exécutif pour créer de la valeur ajoutée au sein du secteur agricole et de réduire la facture des importations alimentaires du pays. Au Kenya, les achats de denrées alimentaires ont grimpé de 18% à 1,4 milliard de dollars en 2022, selon les données du Bureau national des statistiques.